Chapitre 3. Oh, que le Rhône était grand et brillant ce matin-là! Bleu et vagué comme la mer sous l'haleine puissante du mistral, il déferlait à flots pressés contre les piles des ponts interminables, d'abord le pont de Beaucaire, le plus grand de France, ce pont qui sépare Beaucaire de Tarascon, le Languedoc de la Provence, le Midi des roseaux et le Midi des pierres. L'Angélus du matin sonnait sur les deux rives, aux clochers de Beaucaire comme à ceux de Tarascon, dont on voyait en face étinceler les blanches pointes, par-dessus les créneaux et les hautes murailles rousses du château du roi René. À cette époque, Tarascon n'était pas encore illustre. Il avait sa gloire historique inscrite dans les vieilles archives, mais mon ami Tartarin n'y était pas encore né, et je ne me doutais guère, pendant que je piétinais sur le quai avec Léonce en admirant le beau coup d'œil, le beau spectacle de la cité tarasconnaise étalée sur l'autre rive, qu'un jour jaillirait de mon cerveau le héros méridional, tueur de lions, escaladeur de cimes, colonisateur sans pareil, l'extraordinaire Tartarin. Avec les Angélus, 5 heures sonnaient joyeusement partout. Il faisait frais, malgré que le soleil fût déjà très haut et très chaud au bord du Rhône. Le mistral à la laine violente, moins pourtant que sa sœur la tramontane qui nous vient du nord-est avec un goût de neige. Le quai était désert à cette heure. 2 ou 3 portefaix seulement jouant au bouchon et des douaniers en tunique verte qui marchaient de long en large, plus un groupe de 5 ou 6 voyageurs, des soldats à pantalons rouges, des femmes, des enfants en mitouflet de couverture, de cache-nez et battant la semelle sur les larges dalles du bord en attendant, comme nous, l'arrivée du bateau qui remontait le Rhône en venant de la tour Saint-Louis.
« Oh, de ce monstre, comme il est en retard, ce bateau !»
dit tout à coup près de nous une voix de coq enrhumé, la voix grêle d'un jeune garçon dont on ne voyait qu'un bout de nez rouge et des yeux larmoyants de froid. Il voulait causer, le jeune homme, et moi, enchanté de l'aubaine, je répondis « Mais c'est que le Rhône est dur à la remonte, et les palettes des roues battent l'eau péniblement. » Le ton connaisseur et assuré dont j'avais dit cela me valut un regard étonné et quelques mots de notre garçonnet, frère du premier, à peu près de son âge, qui s'était approché de nous.
« Oh, vous avez l'air de vous connaître aux choses de la marine. Seriez-vous par hasard ?»
Je lui coupe la parole et réponds
« Je sors de l'école navale de Varna avec mon jeune cousin Léonce. »
D'où diable cette réponse m'était-elle venue? Qui me l'avait soufflée? Était-ce ce grand soleil apoplectique qui dégageait sa face des brumes roses du matin? Était-ce toi, grand mistral, qui m'enivrais de toutes les odeurs d'herbe et d'eau que tu portes, que tu secoues de tes grandes ailes? Était-ce l'atmosphère tarasconnaise où couvait l'âme de Tartarin? Qui le sait? Ce qu'il y a, c'est que ces paroles furent dites et qu'à peine prononcées, il fallut en ajouter d'autres, non moins dangereuses et compromettantes, pris comme je l'étais dans l'engrenage irrésistible du mensonge.
« Vous venez de Varna, mon officier ?» me dit respectueusement un soldat qui m'avait entendu.
« Eh bien, moi, j'arrive de Gallipoli. » Sans m'émouvoir autrement, je m'écriai en riant, comme si j'entendais parler d'une vieille connaissance.
« Ah, Gallip, Gallip !»
Et pour donner plus de certitude à mon exclamation, j'ajoutai en me tournant vers mon cousin.
« Tu te rappelles, Léonce, on s'en est payé une bosse dans ce pays-là »
Léonce, après une seconde d'hésitation et les yeux virants de stupeur, répondit bravement.
« Si je me rappelle, si je me souviens !»
Et près de nous, les deux voix des jeunes garçonnets murmurèrent à l'unisson sur un ton d'admiration et d'envie.
« Oh, de ces monstres !»
En m'entendant appeler mon officier, j'avais eu un mouvement de fierté, mais le chuchotement de mes deux admirateurs m'enorgueillit encore plus, et cette exclamation
« Oh, de ces monstres !»
toute locale, dont ils me poursuivirent le long de la route, fut pour ma vanité enfantine un coup d'éperon qui, chaque fois, m'excitait davantage, m'emportait à toute bride dans le mensonge et les inventions. Tout à coup, un beuglement de sirène sonna le long des pierres de la rive, ces grosses pierres de taille préservatrices des inondations. Un halètement de machines, un battement de palettes se firent entendre, et dans un tourbillon de fumée noire, le Bonnardel, ainsi s'appelait le bateau, du nom des fondateurs de la compagnie,
vint se ranger au quai solide qui protège Beaucaire contre les colères redoutables et farouches de son terrible voisin. Les portefaix interrompent leur partie de bouchon, les douaniers se précipitent. Des colis, des tonneaux de vin, des ballots de marchandises, des caisses de toutes les dimensions qui attendaient, empilés sur le quai, sont transbordés dans la cale du navire à grand renfort de muscles et de cris, car nous sommes dans un midi turbulent, violent et loquace. Quant aux pauvres voyageurs, personne ne s'occupe d'eux et on ne leur permet de passer sur le navire que lorsque le dernier baril d'huile, la dernière futaille, ont été bien mis en place et solidement arrimés. Alphonse prend la tête, impatient. Les voyageurs murmurent, seulement ce sont les humbles, des soldats, des femmes, des enfants. À la fin, pressé et fier de la lettre que j'ai dans ma poche, de ma prétendue autorité d'officier, je m'élance sur le pont, suivi de Léonce et des deux petits Montpellierins, les garçonnets de tout à l'heure, des militaires, et dans le va-et-vient, le tumulte, je me mets à chercher le capitaine. J'avais dans la tête un type de capitaine, à la suite de mes lectures et de mes conversations avec le mousse du lycée, soit en tenue de combat, le tricorne en bataille, le sabre au côté, le porte-voix à la main, ou par une nuit de tempête, avec le surroi sous lequel on entrevoit les dorures de la casquette, attachée au menton. Mais à bord du Bonardel, rien de semblable. Les matelots eux-mêmes n'avaient ni veste bleue, ni grand col, à peine des vareuses de futaine, et tous plutôt l'air de garçons de peine, de commissionnaires roulant des tonneaux. Ceux auxquels je m'adressais pour leur demander le capitaine ne me répondaient même pas, tout affairés à leur arrimage. Un d'eux, pourtant, impatienté, pour se débarrasser de moi, s'écria. « Qui, le capitaine? Quel capitaine? Le père Reboul? Mais le voilà, tenez, le capitaine! Ce gros vieux avec une casquette !» Et quelle casquette! Il fallait du reste qu'elle fût bien extraordinaire, car de tout le personnage, c'est la seule chose dont je me souvienne. Ronde, énorme, en peau de lapin, rousse, délavée, avec des oreillettes qui se rabattaient jusqu'au menton. C'était ça, le capitaine? Et c'est cette casquette que je vois, lisant à la hâte ma lettre de recommandation, c'est cette casquette que j'entends me dire d'une voix enrouée et commune, et sur un ton de dédain, le ton d'un absolu « je m'en fiche », descendez dans le salon des premières, débarrassez le pont. Heureusement, les soldats étaient loin et n'entendirent pas traiter leur officier avec cette désinvolture. Débarrasser le pont. Avec ça que c'était commode de débarrasser le pont. De quelle façon s'y prendre? Sauter à l'eau ou bien filer dans la soute à charbon avec les paniers pleins d'huile que l'on descendait? Le diable, c'est que pas plus mon cousin que moi, nous n'avions jamais mis le pied sur un bateau grand ou petit, à voile, à vapeur, ni même à rame. Notre connaissance n'en venait que de nos lectures. Tout était nouveau pour nous sur ces planches humides, jusqu'au balancement du Rhône, fouetté par le mistral et clapotant contre les pierres de la digue, faisant tout danser, tout trembler. Nous eûmes une minute de désarroi, une, pas plus. Je me souvins d'avoir lu dans mes livres maritimes que les passagers un peu bien, un peu chic, se tenaient sur le gaillard d'arrière. « Arrive, » dis-je à mon cousin, « à la première écoutille ouverte, nous descendrons dans le salon. » Les écoutilles, encore un mot qui me revenait des Robinsons. « Oh, de ce monstre !» fit une voix claire, enfantine, derrière moi. Les deux petits de Montpellier nous avaient suivis et leur cri d'admiration me vint à propos, donner du courage et de l'assurance. « Qu'est-ce que cela, une écoutille ?» demanda l'un d'eux à Léonce. Comme il était fort embarrassé pour répondre, ce qui eût semblé singulier d'un élève de la marine, je me hâtai de répliquer pour lui que les écoutilles étaient des ouvertures quadrangulaires faisant communiquer le pont avec le dessous. Juste à ce moment, se dressait devant nous comme une fenêtre de mansarde ouverte sur un toit. Ça devait être là. Je me penchai, l'escalier des premières n'était ni facile ni élégant. Une échelle presque droite s'enfonçait dans un trou noir, sentant la fumée. Comment les dames descendaient-elles par là? Je me hasardai pourtant, gêné par ma couverture, ma valise. Léon se portait le panier à provisions. assez effrayé, mais obligé de me suivre, par sa vanité et par notre commune profession d'officier de marine, ses pieds m'écrasaient les doigts et précipitaient ma descente. Les petits de Montpellier n'avaient pas osé se risquer dans cette aventure, et, en relevant la tête, je voyais penchés sur le trou noir, leurs fronts ingénus et tondus, leurs yeux et leurs bouches en rond, pendant que je poussais une petite porte. Je me trouvais dans une sorte d'office, aux tables et aux murs encrassés, où s'agitaient deux ou trois marmitons, avec des toques blanches et des vestons blancs, d'un blanc qui aurait traîné 8 jours dans la soute au charbon. Et, comme je demandais le salon des premières, l'un d'eux me répondit « Venez par ici, je vais vous conduire dans les premières, les deuxièmes et les troisièmes, si vous voulez. » Voulant dire ainsi que parler des premières dans un bateau de cette sorte était d'une naïveté bien pardonnable à mon âge. Dans la cuisine que nous traversâmes, des quartiers de viande, des paniers de légumes et ces pains énormes que les Lyonnais appellent des couronnes, ronds et creux comme des couronnes funèbres. Un panneau poussait et j'arrivais dans une vaste pièce avec des divans en cuir de chaque côté et au milieu une longue table flanquée de bancs étroits. À notre arrivée, quelques silhouettes humaines étendues sur le divan de droite s'agitèrent comme sorties du sommeil. Un long monsieur maigre à barbe rouge, avec un foulard bleu noué en serre-tête à 2 pointes au-dessus du front, se dressa sur son séant, me regarda un instant, puis, ayant dit quelques mots dans une langue inconnue à 2 ou 3 jeunes garçons coiffés du même foulard, se recoucha avec un haussement d'épaule qui semblait signifier « J'en ai assez vu, cela ne vaut pas la peine de se déranger plus longtemps. » Ce qu'il dit ensuite devait être drôle, car pendant quelques instants, les 2 ou 3 garçons se roulèrent en riant sur leur lit improvisé, à ma grande vexation. Ce que l'on ne comprend pas semble toujours plus malicieux, plus mordant, et Léonce, comme moi, nous sentîmes d'instinct que nous avions là toute une pochée de vipères, d'ennemis sans pitié. Très dignes, dressés sur nos ergots comme 2 jeunes coqs, nous allâmes nous asseoir sur le divan d'en face. Celui-ci aussi était occupé, car de petits cris nous accueillirent et apparurent, émergeant de dessous un tas de couvertures, 2 aimables figures de femmes encore jeunes, en noir, en fanchon de dentelle, aux yeux bleus, aux cheveux légers et frisottants, au-dessus de 2 petits nez très courts, très gais. Ce qu'étaient ces 2 dames, nous le sûmes tout de suite par leurs propos. C'étaient 2 Lyonnaises, 2 belles sœurs mariées, chacune à un chef d'atelier de la compagnie maritime. Elles venaient de passer quelques jours chez un parent, un ingénieur, à la tour Saint-Louis, et, parties de là pour se rendre à Lyon rejoindre leur famille, elles étaient arrivées à Arles la veille au soir, et le Bonnardel ne marchant pas la nuit, pour s'épargner la dépense de l'hôtel, elles avaient couché sur le bateau, dans le salon des premières. Elle se plaignait d'être traitée à bord plus mal que des colis, accusait le capitaine Reboul, le traitait de sauvage et le monsieur anglais en face d'elle, d'homme fort mal élevé, ainsi que ses enfants, baragouinant tout le temps et ne leur adressant pas plus la parole qu'à des chiens. Aussi, ce qu'elles étaient heureuses de voir arriver de nouveaux compagnons, et des Français au moins cela. Tout ceci chuchotait dans le demi-jour, pendant que le Bonnardel se détachait du rivage, battant le fleuve avec les palettes de sa roue, que les ferrures geignaient, que les bois craquaient, et que, par les hublots embrouillés, on voyait s'éloigner la jetée blanche. Je rendais à ces dames, durant ce temps, confidence pour confidence. Je leur appris que nous irions avec elles jusqu'à Lyon, et comme elles s'étonnaient de nous voir voyager si jeunes et tout seules, je leur déclarai, avec un sourire supérieur, que nous sortions de l'école de marine de Varnin en congé de santé et que, sitôt rétablis, nous irions, mon cousin et moi, prendre du service jusqu'à la fin de la guerre. Vous pensez si les 2 Lyonnaises nous regardaient avec des yeux étonnés, écarquillés d'admiration. Presque des enfants, et déjà officiers, à la veille de se battre! Leurs yeux bleus disaient tout cela et signifiaient bien d'autres choses encore. Je m'animais en parlant, prenant le cousin à témoin, m'excitant surtout devant les sourires d'incrédulité de l'anglais, de l'ennemi qui m'écoutait, tout en défublant sa coiffure de nuit. Est-ce que ce malotru n'eut pas l'aplomb de me demander, tout à coup, par-dessus la table, dans un français très correct, mais avec l'accent de son pays ? « Ah, ça, pourriez-vous me dire, monsieur, à quel âge la marine française recrute ses officiers ? Ici, j'aurais pu placer un mot héroïque, une de ces réponses grandioses qui vous envoient un homme à la postérité. Mais non, la sincérité m'oblige à dire que je ne me souviens pas de ma riposte à cet insolent interlocuteur. Il est probable que je suis resté court, et c'est ce que j'avais de mieux à faire. Par exemple, je vois très net, à l'entrée du salon, l'apparition de Maître Reboul, le capitaine, ayant enfin pris connaissance de la lettre de mes parents, pour lesquels il avait un très grand respect, et venant s'excuser de la façon dont il m'avait reçu. Il me donna de grandes poignées de main, de ces poignées de main d'homme à homme qui vous cassent les os, surtout quand on ne les a pas très solides, comme moi à cette époque. Il me dit de me considérer sur son bord comme chez moi. Puis, regardant autour de nous dans le salon, il ajouta que si nous étions trop mal pour dormir pendant les 3 ou 4 jours du voyage, il nous offrait la moitié de sa cabine, la seule qui fût habitable à bord. Je le remerciai en l'assurant que mon cousin et moi étions habitués à coucher sur la dure, et je le raccompagnai jusqu'à la porte du salon, ravi de la considération dont ses paroles venaient de m'auréoler aux yeux des dames lyonnaises et surtout au regard de mes ennemis, tout à coup empreints d'un certain respect.